de la vie sociale du triton. Bien que le triton soit un des plus petits animaux existants en Amérique du Nord, on ignore généralement que cet animal a une vie privée, extrêmement heureuse. C'est encore une de ces choses qui ne s'ébruitent pas. Je me suis intéressé pour la première fois au phénomène de la vie sociale du triton au début du printemps 1913, peu après avoir terminé mes recherches sur la différenciation sexuelle chez les amibes. J'ai depuis lors passé le plus clair de mon temps avec les tritons, prenant des notes, des photographies, observant leurs travaux et leurs jeux, car ils en ont, croyez-le bien, les petits fripons, du reste qui n'en a pas. Jusqu'au jour où je me suis aperçu qu'en raison des stations prolongées que je faisais à plat ventre devant l'aquarium où ils vivaient, ils commençaient à me pousser quelque chose qui, j'en ai bien peur, ressemblait à des embryons de radicelles. Aussi, à la fin de l'automne suivant, repris-je la station verticale et rentrai-je à la maison où je me mis un continent à compiler les notes que j'avais accumulées. En voilà assez pour l'introduction, qui n'est pas technique, le reste de l'article promet par contre d'être assez scientifique. En étudiant les phases de la vie la plus intense du triton, on est particulièrement frappé par les méthodes qu'emploient les mâles pour attirer l'attention des femelles et convoler avec elles. Car après tout, un triton n'est qu'un triton et il a ses faiblesses comme tout le monde. Personnellement, je trouve rien à y redire, on est déjà suffisamment privé de distractions comme ça. L'étrange particularité du comportement prénuptial du triton réside dans sa discrétion. Entre le mâle et la femelle, tout se passe à une distance minimum de 50 pas, en termes de triton bien entendu. Il arrive quelquefois que certains mâles, parmi les plus entreprenants, enfreignent les lois de la bienséance et s'approchent à 45 pas de la femelle, mais c'est là un procédé que le pouvoir législatif considère d'un très mauvais œil. En fait, un observateur non prévenu pourrait aussi bien croire le couple en train d'exécuter les figures les plus distantes d'un menuet. Les moyens employés par les mâles pour attirer l'attention et conquérir les bonnes grâces du sexe opposé sont divers et relèvent de la plus haute stratégie. Avant les précieux travaux de recherche effectués en 1887 par Strudelhoff dans son Entwicklung Glück und Grundmechanik, personne n'avait réussi à comprendre la tactique exacte employée par le triton mâle pour susciter l'intérêt de la femelle et la pousser à se jeter dans ses bras. L'observation a prouvé que le triton le plus dénué de charme personnel peut s'approcher jusqu'à une cinquantaine de pas d'une femelle de sa connaissance et grâce à quelques clins d'œil l'amener au point où elle lui fait entendre sans aucune espèce d'équivoque qu'elle consent à consommer avec lui les rites du mariage dans le plus bref délai. C'est également Strudelhoff qui a découvert, après avoir observé à la loupe le comportement prénuptial des milliers de tritons, ce qui dénote certainement de goût suspect de sa part, mais que voulez-vous, l'amour de la science ne connaît pas ce genre de discrimination, que le mâle irradiait une étrange lueur phosphorescente au cours de la période des amours. Elle commence le 10 mars et dure jusqu'à la fin du mois du février suivant, ce qui laisse une dizaine de jours pour la remise en état de la redécoration générale. Cette luminosité émane du centre de sa crête dorsale de couleur vive. L'effet est un peu comparable au feu qu'une épingle de diamant peut jeter sur une cravate rouge. Toujours d'après Strudelhoff, ce serait cette émission lumineuse qui fascinerait la femelle à cause de l'élégance et de la richesse qu'elle dénote et la ferait succomber incontinent à sa séduction. Mais la petite bête, se conformant fidèlement à cela aux impératifs de son instinct sexuel, ne laisse pas voir tout de suite que son moral est tombé à zéro. Affectant la réserve et l'indifférence, elle se déplace au fond de l'aquarium en effectuant des mouvements latéraux saccadés, détournant la tête par-dessus l'épaule gauche tout en s'abstenant de regarder son soupirant. Une oreille exercée pourrait même percevoir un petit sifflotement dégagé. Pendant ce temps-là, le mâle jette des étincelles à 50 pas et exécute une série de prouesses attrayantes qui doivent amener la capitulation de Dame Triton. J'ai déjà vu un mâle entraîné par le feu de l'action se mettre sur les pattes de devant et gigoter amoureusement en l'air avec ses pattes de derrière. Dans son Über Weltschmerz der Snowzut, Franz Inkelhalt rapporte qu'il a observé une ondulation distincte et délibérée du corps du triton partant des épaules et se propageant jusqu'à l'extrémité caudale qui pourrait bien être à l'origine de ce que l'on connaît aujourd'hui dans les milieux scientifiques sous le nom de « twist ». Les contorsions semblent bien avoir le même objet, bien que dans le cas des tritons, ce soit le mâle qui joue le rôle actif. Afin de mettre à l'épreuve la capacité d'observation du mâle au cours de ses manœuvres, j'ai délicatement retiré du bocal la femelle pour laquelle il se démenait et l'ai remplacé par une autre femelle, mais moins bien de sa personne que la première, un presse-papier en bronze en forme de triton et pour terminer par une gomme à crayon ordinaire. À la distance à laquelle il faisait sa cour, le mâle, qui, il faut bien le reconnaître, est congénitalement un peu myope, s'est révélé incapable de déceler le changement de partenaire et n'a pas cessé, même en présence de la gomme, de tournoyer sur lui-même et d'onduler le plus consciencieusement du monde, toujours persuadé de se livrer à une entreprise de séduction pour sa belle. Finalement, épuisé par ses efforts et dégoûté par le peu de réaction de la gomme, le triton poussa un profond cri de rage et de désespoir, se traîna d'un pas vacillant jusqu'à un bac qui se trouvait pas loin de là et qui contenait une décoction d'orge. Il en but alors jusqu'à tomber dans une profonde torpeur. Ainsi donc, petite bête, votre romance prit-elle fin. Et qui prétendra que cette fin est moins tragique que celle de la dame aux camélias? Pas moi, du moins. Mais à vrai dire, les deux cas n'ont strictement rien en commun. Maintenant, jetons un regard vu en coupe de la vie communautaire du triton. C'est une existence fertile en aventures passionnantes qui vont de la confection de petits nids à la reptation au soleil, en passant par la capture des larves d'insectes et de crustacés. Une journée de triton n'est jamais assez longue, et surtout si on tient compte du fait que la vitesse de multiplication des larves d'insectes est 3 millions de fois plus grande que la dextérité et l'appétit du triton. La colonie de triton est donc obligée de fournir un travail d'équipe soutenu pour que le gros de l'ouvrage soit achevé à la tombée du jour. Voici donc poindre le petit matin. On voit apparaître les ouvriers en train de se hâter vers le vieux bout de bois qui va servir de chantier à leur labeur. Quelle galopade! Quelle bousculade! Ah, petit galopeur, petit bousculeur, quelle chance vous avez! Quelle sagesse que la vôtre! Vous peinez de longues heures sans aucun salaire par pur amour du travail. C'est l'existence idéale. Que le monde scientifique se le tienne pour dit. Là-bas, à droite du vieux bout de bois, sont rassemblés les maîtres dragueurs. De tous les ouvriers tritons, ce sont les plus inefficaces, ce qui ne constitue pas un mince record. Approchons-nous et voyons un peu ce qu'ils font. Le chef d'équipe attrape une saleté quelconque et la hisse sur le bout de bois au soleil. Le reste des maîtres dragueurs le suit à la file indienne. Ils ne draguent rien du tout, mais assistent leur chef en se pressant contre lui et en lui grignotant des petits bouts de queue. Les voici maintenant parvenus au faîte du bout de bois où le meneur, à force de gigoter, a réussi à hisser son butin. Ayant donc atteint leur but avec ce précieux fardeau, nos petits travailleurs l'abandonnent ensuite aux maîtres renfloueurs qui les ont attendus tout ce temps-là au soleil. Le travail des maîtres renfloueurs est vite fait, car il consiste simplement à pousser le bout de saleté de l'autre côté de la bûche jusqu'à ce que, floc, il tombe dans l'eau et disparaisse. Une fois ce travail achevé, nos minuscules tâcherons se reposent en groupe, hochant la tête de droite et de gauche comme pour dire « Eh bien voilà qui est fait !» Mais oui, voilà qui est fait, cher petit maître dragueur et renfloueur, et bien fait, qui plus est, je souhaiterais que mon travail soit aussi parfaitement accompli et m'apporte autant de satisfaction. Et cela continue ainsi. Jour après jour, l'armée active de tritons s'efforce d'améliorer son séjour ici-bas. Ils ont leurs petites épreuves et leurs petites tragédies, c'est vrai. Mais ils ont aussi leur joie, comme tout le monde peut se rendre compte en regardant un tronçon de bois couvert de tritons en train de dormir par une chaude journée d'été. Après tout, que peut-on demander de plus à la vie ?